Bienvenue à tous, c'est un plaisir de vous retrouver encore une fois de plus ce soir pour ces essentiels de la foi, ce temps de cours d'enseignement qui est vraiment cher à mon cœur. Et je peux dire que je suis honoré de voir le nombre de questions qui me sont posées. Et il se trouve que le cours de la semaine dernière a vraiment suscité beaucoup d'interrogations. Donc c'est vraiment, cela me montre que cela fonctionne. Et en choisissant ce cours sur la vérité la semaine dernière, je savais quelque part que j'allais provoquer beaucoup de questions. Et c'est quelque part un peu mon but. À chaque fois que je choisis un sujet, j'essaye de réfléchir et la manière dont je l'aporte et ce que je dis ou ne dis pas, je sais que souvent ça va susciter certaines questions. Et ça me permet aussi de laisser la porte à votre curiosité, à vos réflexions, de vous laisser comme ça dans cette relation naturelle entre nous et qu'on puisse construire ensemble ces connaissances, cette compréhension de la parole de Dieu. Alors n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Église Paris Métropole et à activer la petite cloche pour pouvoir recevoir toutes nos notifications et être au courant de tout ce qui se fait dans notre Église. N'hésitez pas aussi à participer sur les différents chats, nous sommes à la fois sur YouTube et sur Facebook, donc n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez en direct ou bien à revenir sur la vidéo YouTube plus tard et peut-être poser des questions en commentaire, voire même me contacter par mail à cette adresse qui s'affiche contact.pastorsam@gmail.com. Ce sera un plaisir pour moi de vous répondre et en tout cas de collecter les questions. Alors aujourd'hui, j'ai choisi une question. En fait, ça va en rassembler deux. Une question qui a été posée par Cyrielle, une question qui a été posée par Rachel. Et je vais essayer d'en faire une seule question pour pouvoir apporter certains éléments de réponse. Je vais résumer un petit peu cette question comme celle-là. Vérité et réalité. Quelle est la relation entre les deux? Est-ce qu'il existe plusieurs réalités ou est-ce qu'il existe une seule réalité divine ou une seule vérité divine qui s'impose à nous? Ça rejoint aussi cette question, finalement, de Cyrielle qui disait « Comment répondre à ceux qui pensent que la vérité serait ailleurs, par exemple, dans une autre religion ?» Elle a cité l'exemple du Coran et des musulmans. Quel argument opposer à cela? Et quelque part, est-ce que la réalité de l'islam, la vérité de l'islam, peut venir contrer la vérité de Jésus? Parce que c'est vrai que moi, je vous ai présenté que la seule vérité qui existait, ce n'était pas forcément une information, une donnée, quelque chose comme cela, mais que c'était une personne, que c'était à travers Christ que nous trouvions la vérité. Alors, comment répondre à cette question? Et c'est vrai que, à vrai dire, les questions que je reçois par rapport à la vérité sont bien plus complexes à répondre que des questions pratiques qu'on a pu avoir les semaines précédentes. Alors, je vais essayer de remonter un peu le fil, et je voudrais, avant de commencer, déjà faire une forme de dédicace, une forme de citation, en fait, pour montrer d'où viennent mes sources, quelque part. Pour tout vous expliquer, ce que je fais devant vous aujourd'hui est aussi le fruit de ce que je suis, et ce que je suis est aussi influencé par toutes les personnes que j'ai pu rencontrer, les pasteurs que j'ai pu entendre, les livres que j'ai pu lire. Et en soi, je voudrais reconnaître un grand homme de Dieu qui nous a quittés il y a quelques jours. Vous avez peut-être entendu dans les actualités évangéliques le départ d'un serviteur de Dieu qui s'appelait Ravi Zacharias. Et la personne que je suis, la manière que j'ai de réfléchir et de vouloir expliquer les choses au monde, tient beaucoup de cet homme de Dieu qui m'a beaucoup influencé, et aujourd'hui particulièrement alors que nous parlons de la vérité, de tous ces arguments-là, je vais beaucoup utiliser de son contenu, et d'ailleurs la citation que j'utiliserai pour accompagner le prochain sujet de mon cours sera une citation de lui-même. Et il avait souvent tendance à répondre à cette question « qu'est-ce qu'est la vérité ?» quand il était devant de grands publics qui se posaient des questions comme celle-là. Et il expliquait qu'en fait, très clairement, il n'y a que quatre questions dans la vie. Il n'y a que quatre questions qu'on peut se poser. La question de l'origine, la question du sens, la question de la moralité, la question de la destinée. Et en fait, ces quatre questions englobent toutes les réalités. La question de l'origine, c'est de savoir d'où je viens. La question du sens, c'est de savoir pourquoi je suis là. La question de la moralité, c'est de savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, et comment me comporter par rapport à cela. La question de la destinée, c'est de savoir où je vais. Et toutes ces questions-là vont composer l'ensemble de nos réalités. Quel que soit nous sommes, quel que soit l'endroit où nous vivons, quel que soit notre arrière-plan religieux ou culturel ou philosophique, nous aurons toujours ces quatre questions pour lesquelles il faudra trouver des réponses. Et pour savoir si nous sommes dans la vérité, il va falloir les passer entre deux filtres. le filtre de la correspondance et le filtre de la cohérence. Le filtre de la correspondance, c'est de voir que si nos réponses à ces questions vont correspondre, vont arriver à correspondre, si nos réalités, si ces réponses que nous faisons à ces questions vont correspondre à une réalité devant nous, à une réalité qui peut être vécue. Parce que l'idée de répondre à ces questions, ce n'est pas juste de dire « j'ai une réponse », c'est de pouvoir la vivre. Si j'ai des réponses farfelues à la question du bien et du mal et que je ne peux pas vivre ma réponse, ça ne sert à rien. Et c'est vrai, c'est pour cela que les personnes qui m'ont posé ces questions ont vraiment touché du doigt le problème. Parce que le problème de la vérité, c'est souvent notre réalité. Comment nous comporter, comment vivre, parce que nous sommes dans des réalités, nous sommes dans du concret. Et il ne suffit pas de dire « voilà la vérité » en donnant une information, il faut que cette vérité puisse correspondre à une réalité que nous puissions vivre. Le deuxième filtre, c'est le filtre de la cohérence. Il faut aussi que ces réponses puissent marcher ensemble et ne s'opposent pas, sinon je ne vais pas pouvoir vivre la vie selon la vérité que je suis en train de déterminer. Pourquoi vous dire cela? Vous allez me dire, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vu, il est où Jésus dans tout cela? Quelle est l'importance de la parole de Dieu? Pourquoi? Parce que la vérité de Jésus, oui, je vous ai dit que la vérité c'est une personne, mais la vérité c'est aussi un message, c'est aussi le plan que Dieu a pourvu pour l'humanité. Cette vérité de Jésus, c'est la seule qui peut fonctionner et qui peut donner une réponse cohérente et correspondante à une réalité vécue pour toutes ces questions. C'est la seule. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui nous explique, et c'est la parole de Dieu qui nous explique d'où nous venons, notre origine. Jésus, en tant que vérité, en tant que « je suis la porte, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie », il donne et il est le seul à pouvoir donner un sens à notre vie. Vous pouvez essayer de donner des sens personnels, vous pouvez essayer de créer des réalités personnelles, mais elles ne tiendront pas la route. Il est le seul à pouvoir répondre à la question de la moralité, entre le bien, entre le mal. Parce qu'il est le bien incarné, il est parfait, juste, sans tâche, et il est venu affronter le mal. Il est venu porter le péché de l'humanité sur ses épaules et nous libérer de ce poids-là. Il est aussi celui qui répond à la question de la destinée, en nous donnant une réalité concrète, celle d'être avec lui lorsque nous serons appelés auprès de lui, soit par la mort, soit lors de son retour. Il est le seul à donner une réponse cohérente à ces questions, et d'ailleurs, même si vous allez dans les autres religions, vous verrez que certaines de ces questions ne trouvent pas réponse. Certaines de ces questions sont encore des questions, parce qu'elles peuvent essayer de donner des réponses à certaines, mais elles ne passeront pas le test de la correspondance et de la cohérence, de la correspondance à la réalité et de la cohérence entre elles. Vous aurez peut-être des éléments de réponse ailleurs, mais vous serez toujours insatisfait parce que la satisfaction ne sera que en Christ. Alors, revenons à la question finalement, de la confrontation d'une réalité chrétienne peut-être, ou d'une expérience de Jésus-Christ par rapport à d'autres vérités, en tout cas d'autres réalités qui se présentent comme des vérités. Je ne vais pas pouvoir combattre l'islam en 30 secondes, je ne vais pas pouvoir vous montrer que le bouddhisme n'est pas la bonne voie en 30 secondes, cela demande des années, des mois. En tout cas, ça demande des cours beaucoup plus longs et larges, et il y a beaucoup de contenu bien meilleur que ce que je vais vous dire. La simple chose, c'est que quand on est face à quelqu'un qui pense avoir la vérité, et une vérité divergente de la nôtre par rapport à Jésus-Christ, en fait, nous rentrons dans le mauvais combat, parce que nous sommes en train de combattre des réalités différentes. Et je vais reprendre les mots de Rachel qui a posé ces questions, elle a beaucoup illustré ces questions et je la remercie. Elle m'a pris des exemples en disant, finalement, on peut même avoir des opinions différentes sur des éléments qui semblent être les mêmes. Et c'est vrai qu'au XXe siècle, l'avancée des sciences sociales nous ont montré qu'il y a un relativisme par rapport aux choses. C'est-à-dire que quelque chose qui a un sens défini à un endroit, par exemple en France, la même chose peut avoir un autre sens ailleurs, soit aujourd'hui ailleurs dans le monde, soit ailleurs dans le monde, dans l'histoire. La correspondance, la signification d'une couleur, par exemple, peut avoir un sens dans une civilisation et un autre dans une autre. Prenons le blanc et le noir. Dans certaines civilisations, le blanc sera le signe du deuil, dans d'autres, ce sera le noir. Il y a des réalités différentes et faire la liste serait quelque chose d'infini parce que nous vivons tous des réalités différentes. Et de ces réalités différentes, de ces expériences différentes, de ces civilisations différentes sont sorties beaucoup d'informations, beaucoup de philosophies, beaucoup de positions qui se sont construites comme des vérités pour permettre de vivre aux gens. Mais quand on parle de Jésus-Christ, quand on parle de Dieu, quand on parle de la Bible, nous ne sommes pas là en train de comparer un livre par rapport à un autre livre religieux, nous ne sommes pas là en train de comparer une position, une culture, nous sommes là en train de comparer la réalité de Dieu. Alors, je vous le concède, cela nécessite de la foi. Il y a une nécessité de notre part de croire que la Bible est la parole de Dieu. C'est là la base en fait. Et à partir du moment où on croit que la Bible est la parole de Dieu, on va commencer à comprendre que le message qui est inscrit, ce n'est pas juste un message de plus, ce n'est pas juste une réalité de plus, ce n'est pas juste une information de plus face aux autres. C'est une information totale, nouvelle, parfaite, qui doit s'imposer à moi. Et donc oui, c'est pour ça que j'ai choisi de dire la semaine dernière que la vérité, c'est une personne. C'est en Jésus-Christ que nous trouvons la vérité, que nous comprenons les choses, parce que elle répond, cette vérité, à toutes nos questions, à tout ce que nous sommes. Bien, peut-être plus tard que nous viendrons, et il y a une question que j'ai reçue aussi et qui me fait dire que je vais devoir venir sur ce sujet-là. Nous allons venir en plus en détail sur l'autorité et la vérité de la parole de Dieu. Pourquoi la Bible? Pourquoi nous disons que la Bible est la vérité? Pourquoi ce texte que nous avons là aujourd'hui, comment nous pouvons être sûrs que c'est un texte qui est vraiment divin, quelque part? Comment nous pouvons être sûrs que son message est parfait pour nous et qu'il va venir combler nos vies? Parce que vraiment, il y a beaucoup de textes autour de nous qui nous perturbent, même des fois, les versions de la Bible nous perturbent, on ne se comprend pas pourquoi il y a des différences. Donc je reviendrai sur cela plus tard, mais il faut bien comprendre que face à quelqu'un qui me dit que sa vérité est meilleure que la mienne, ma réflexion, ce n'est pas de vouloir faire du relativisme et de dire que quelque part tout le monde un petit peu a raison. C'est d'arriver à le faire venir sur le champ, où il va comprendre que seul Jésus peut être la réponse à toutes ces questions. Et donc, pour pouvoir contrer quelqu'un qui ne serait pas rassuré par notre vérité, ce n'est pas d'essayer de lui prouver que nous avons raison, c'est de le faire réfléchir sur ces questions. Prenons l'exemple du musulman. Cyriel, si tu es face à ce cas de figure, s'il y a une personne qui t'a posé cette question, pose-lui ces quatre questions. Ton origine, le sens de ta vie, la moralité et ta destinée. Elle aura sûrement des réponses sur certains éléments. Et d'ailleurs, certaines réponses seront proches des tiennes. Pourquoi? Parce que on le sait très bien que le Coran s'est beaucoup inspiré de la Bible. Alors évidemment, si on dit cela à quelqu'un qui révère le Coran et qui croit que le Coran est la parole de leur Dieu, c'est difficile à accepter, mais bon, on verra plus en détail plus tard, c'est une réalité. La Bible est rédigée bien avant le Coran, c'est une certitude, les preuves archéologiques en attestent. Mais sur certaines questions, nous aurons même peut-être les mêmes réponses que les musulmans, et d'ailleurs c'est pour ça que quand on discute avec un musulman, c'est pas toujours évident de savoir s'il est d'accord avec nous, ou c'est simplement qu'il a les mêmes réponses à certaines des questions que nous nous posons. Par contre, il y aura des questions où il ne pourra pas répondre. C'est sa destinée. Où va-t-il? A-t-il la certitude de sa destinée, de où il va? La seule réponse à cette question, c'est Jésus-Christ. Et c'est d'ailleurs ce qui va faire la transition avec le sujet d'aujourd'hui. J'ai intitulé ce cours « Qu'est-ce que l'Évangile ?» Pourquoi j'ai intitulé ce cours Qu'est-ce que l'Évangile? Parce que, en fait, on se rend compte, et c'est en regardant aussi sur Internet, je me rends compte, que beaucoup parlent de Jésus, mais je ne suis pas bien sûr que tout le monde soit bien au courant de ce que Jésus est venu faire. Et si je posais cette question, et si vous preniez quelques secondes pour répondre tout de suite Qu'est-ce que l'Évangile? Est-ce qu'on arrive à réellement faire une réponse structurée et pleine et entière de ce qu'est l'Évangile? Qu'est-ce que l'Évangile? Pourquoi je dis cela, c'est que en fait, souvent des sondages, il y a eu des tests et des sondages qui ont été faits aux États-Unis dans des grandes conventions évangéliques, et il se trouvait que le nombre de réponses réellement exactes et complètes était très faible. En fait, souvent, on prend l'Évangile, mais on ne connaît qu'une part de ce que cela implique. Et alors que l'Évangile est bien, bien structuré, bien expliqué dans la parole de Dieu, mais nous avons souvent une méconnaissance de ce que Jésus est venu faire. Alors pour commencer, avant de venir dans les détails, dans le détail de cette définition de l'évangile, je vais prendre cette citation de Ravi Zacharias. Le plus grand obstacle à l'impact de l'évangile n'est pas son incapacité à donner des réponses, mais notre propre carence à le vivre pleinement. Ça résume exactement le problème de notre monde, du monde chrétien déjà, et du monde dans son ensemble. Il y a tout dans l'évangile. Il y a tout en Jésus-Christ. Là aussi, nous revenons sur ce que nous venons de dire tout à l'heure, il y a les réponses en Jésus-Christ. Il y a la vérité en lui. Et c'est pas ça le problème. En fait, tout est pourvu, tout est prévu, tout est là. Il n'y a aucun souci sur cela. Le seul problème, c'est que nous ne vivons pas ce qui est prévu. C'est que nous ne vivons pas pleinement ce que Dieu nous donne. Et c'est ça qui manque au monde. C'est tellement tragique, finalement, quand on y réfléchit, de voir que la solution existe, que Dieu a tout fait pour que nous puissions vivre cela, mais que nous ne vivons pas pleinement ce qu'il a prévu. Et du coup, nous vivons dans la souffrance, nous vivons dans l'insatisfaction, nous vivons dans le trouble, alors que les éléments de la vérité sont présents. Alors qu'est-ce que l'évangile? Il y a donc ce manque de compréhension, cette difficulté à définir les choses. Et là, je ne parle pas de la difficulté de définir l'évangile pour les non-chrétiens. Évidemment qu'ils ne peuvent pas le définir, ils n'ont peut-être jamais été en contact avec le message de l'évangile. Je parle même de notre propre capacité à définir ce en quoi nous croyons. Alors je vais faire très simple. On aurait pu faire beaucoup plus étoffé, mais je vais faire très simple et j'ai choisi un seul passage qui va nous aider à définir ce qu'est l'évangile. Avant de lire ce passage, déjà je vais dire qu'il y a une signification d'ailleurs, le mot évangile. L'évangile en grec, c'est la bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle dans la Bible. Il y a une bonne nouvelle qui nous est annoncée par Jésus-Christ. Nous allons voir ensemble ce qu'il en retourne. Alors si vous avez la Bible, ou peut-être une application, un site internet qui vous permet de le lire, nous allons regarder dans le livre de Romains, au chapitre 3. Romains au chapitre 3, et nous allons lire du verset 19 au verset 26, et puis après je reviendrai sur différents points. Il est dit, « Or nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. » Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang, pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a foi en Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous êtes familier de l'Épître aux Romains, mais c'est une épître qui est merveilleuse. On a parfois appelé cette épître le cinquième évangile parce qu'elle résume vraiment le plan de salut de Dieu pour l'humanité. Elle n'est pas forcément toujours évidente à lire parce qu'il faut qu'elle soit souvent lue dans son ensemble. Parce que l'apôtre Paul a un fil conducteur et il essaye de démontrer étape par étape tout son raisonnement pour nous amener à la compréhension de qui est Jésus, pourquoi il est venu et qu'est-ce qu'il a pu faire. Mais en prenant ce petit texte, ces quelques versets, nous allons pouvoir voir 7 points qui nous expliquent ce que l'évangile, et ça va aller assez vite. Le premier point, c'est que personne ne peut être déclaré juste par Dieu, devant Dieu, par la loi. La loi, vous pouvez la découvrir en lisant la Bible. Et peut-être que vous avez commencé à lire la Bible, lire les textes de la loi, et vous allez vous dire, mais oh, c'est tellement dur de ressembler à Dieu, finalement. J'arrive à respecter certains éléments de la loi, mais l'ensemble, impossible. Et même Jésus va venir dans son ministère, il va mettre le doigt sur cette impossibilité à tant de reprises, en particulier sur ce sermon sur la montagne, où il va expliquer que finalement, la loi est quasi impossible à vivre parce que elle peut être résumée à 2 éléments. Aimer son Dieu plus que toute chose et aimer son prochain plus que toute chose, finalement. Pas plus que toute chose, mais plus que soi-même et de ne pas lui faire du mal. Cette réalité-là est quasiment impossible à vivre. Parce que l'amour est tellement difficile à vivre que très rapidement, nous allons être limités dans son expression. Nous allons être jaloux de notre voisin, nous allons avoir de l'envie face à une situation, nous allons peut-être voler quelque chose, mentir sur un sujet. Mais plus que cela, aimer son Dieu plus que toute chose, c'est quasiment impossible à l'homme, c'est impossible à l'homme. Mais alors, à quoi sert la loi? Et c'est ce que Paul essaye de nous dire dans ce verset 19 et verset 20. C'est le premier point, personne ne peut être déclaré juste devant Dieu par la loi. En fait, la loi, elle est là juste pour révéler que nous sommes dans l'incapacité d'être juste devant lui. Ça, c'est la première étape de ce qu'est l'évangile. La deuxième étape, c'est que Dieu donne sa justice lui-même parce qu'il l'a voulu en dehors de cette loi. Puisque la loi ne peut pas nous justifier, Dieu a choisi de nous justifier. C'est le verset 21, c'est notre deuxième point. Le troisième point, c'est que cette justice que donc Dieu veut nous donner, elle se vit, elle s'obtient par la foi en Jésus-Christ, verset 22. Par la foi en Jésus-Christ, c'est le seul moyen. Le quatrième point, c'est que cette justice qui est donnée par Dieu, verset 21, et qui est accessible par la foi en Jésus-Christ, verset 22, elle est disponible pour tous et de la même manière. Pour tous et de la même manière. Soyez bien attentifs, il n'y a pas de cas particulier, il n'y a pas de personnes qui sont avec un accès privilégié. La justice de Dieu s'obtient par la foi, mais elle est accessible pour tous. Pourquoi pour tous? Parce que tous, nous dit la parole de Dieu, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, verset 23. C'est parce que tous sont privés de la gloire de Dieu parce qu'ils ont péché, et que la justice de Dieu est prévue par la foi, qu'elle est accessible aussi à tous. Cinquième point, nous sommes justifiés librement par la grâce de Dieu, par sa grâce, verset 24. C'est quelque chose qui vient de Dieu. C'est quelque chose qui a été décidé par Dieu. Ce n'est pas notre capacité, nos qualités, notre bonté, toutes ces choses qui peuvent nous faire mériter. Non. C'est une grâce qui est divine. Sixième point, elle est cette justification gratuite parce qu'elle a été payante pour quelqu'un. Nous avons un accès gratuit parce que quelqu'un a payé à notre place. C'est le principe de la rédemption. La rédemption, c'est une rançon. La rédemption, c'est quand il y a un rachat. Il y a quelqu'un qui a dû payer. Ce n'est pas du tout gratuit. C'est gratuit pour vous au sens que vous ne payerez pas. Au sens que vous ne pouvez pas le mériter, au sens que c'est une grâce de Dieu, mais il y a quelqu'un qui a dû payer. Ce quelqu'un, c'est Jésus-Christ qui est mort pour vous à votre place et qui est ressuscité le troisième jour. Septième point, il y a eu deux choses. Il y a eu, pour que cette rédemption puisse avoir lieu, ce rachat, cette rançon puisse être payée, il y a deux choses. Il y a un sacrifice d'expiation. Dans la traduction que j'ai lue, il est parlé de propitiation. Alors c'est vrai que c'est un mot qui n'est pas du tout dans notre vocabulaire de tous les jours. Il y a cette logique où quelqu'un quelqu'un est mort, c'est Jésus, je vous l'ai dit, et va prendre la charge de la culpabilité, de la condamnation à sa place. Et la deuxième chose, c'est que nous devons avoir foi dans ce sacrifice. Foi en Jésus-Christ, mais pas juste en Jésus-Christ en tant que personne, en tant qu'homme qui a marché sur la terre, parce que ça voudrait dire presque que nous suivons juste une philosophie, mais foi dans le sang de Jésus. Foi que la mort de Jésus-Christ a une action puissante pour nos vies. Foi que l'œuvre de Jésus-Christ, elle se passe à la croix, et qu'il est mort pour nous, pour toi, pour moi. Alors c'est sept points très clairs, et finalement, vous pourrez relire ces versets et regarder ces points. Je répète, personne ne peut être justifié par la loi. La justice de Dieu est donnée en dehors de la loi, elle s'obtient par la foi en Jésus-Christ. Elle est possible pour tous sur la même base. Elle est distribuée par la grâce de Dieu. Elle est gratuite, mais payante pour quelqu'un, celui qui a payé la rançon. Elle est basée sur ce sacrifice d'expiation de Jésus, et nous devons avoir foi dans ce sacrifice, foi dans le sang de Jésus, foi dans le fait que Jésus-Christ n'est pas simplement venu faire des miracles sur cette terre, parler avec de beaux discours, mais qu'il est mort pour nous, qu'il est ressuscité le troisième jour. Alors c'est ça l'évangile. Alors ça, c'est vrai que quand on lit ces textes, c'est assez lourd, c'est assez dense, mais c'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que nous sommes tous privés de la gloire de Dieu, mais que Dieu lui-même a prévu au plan pour nous sauver, pour nous amener dans cette vérité, dans cette réalité parfaite, certaine, établie, qui ne change pas. Et pour finir, je vais prendre cette illustration qui peut vraiment nous parler. Cette illustration du miroir. La loi agit comme un miroir. La Bible nous dit que la parole de Dieu est un miroir. Et la loi nous a servi de miroir. Et si nous contemplons la loi, nous voyons l'état de nos cœurs. Nous voyons notre visage et nous sommes sales, incapables de pouvoir connaître et rentrer en relation avec Dieu. Et personne ne va voir son miroir pour être lavé. On voit notre image dans le miroir et en fonction de ce que l'on voit, on doit mobiliser d'autres moyens. Si vous vous regardez dans le miroir et que vous vous trouvez sale, vous n'allez pas demander au miroir de vous nettoyer. Vous allez vous tourner vers votre lavabo, vous allez faire couler de l'eau et vous allez vous laver. C'est la même chose avec le salut. La loi de l'Éternel est un miroir sur nos vies. Nous constatons notre péché, nous constatons notre impossibilité à ressembler à la sainteté de Dieu. Et nous devons aller à la source pour pouvoir être lavés. Jésus a dit, je suis la source d'eau vive, et celui qui viendra boire à ma source n'aura plus jamais soif. Il est là pour nous laver, il est là pour nous restaurer, nous transformer. Il est la seule personne qui puisse répondre à nos questions. Il est la vérité, il est notre salut. Ayons foi en lui. Que le Seigneur vous bénisse. Et n'hésitez pas à continuer à poser des questions à cette adresse contact.pastorsam@gmail.com. Nous voulons être au plus près de vous pour réfléchir ensemble. Ne pas oublier qu'il y a aussi notre capacité à réfléchir et que, oui, notre cœur doit accepter les principes de Dieu. Mais quand notre esprit les comprend, notre foi devient encore plus solide. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt.